franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
On commence par un reportage sur des migrants.
Ça se passe en Europe, en Sicile, aujourd'hui. Libération, sous la plume d'Éric Joseph, nous décrit les terribles conditions de travail des immigrés roumains arrivés au début des années 2000 dans cette région agricole qui alimente aujourd'hui l'un des plus grands marchés de fruits et légumes frais d'Europe. Vassili, 35 ans, raconte. Tu travailles minimum 9 heures par jour dans des serres à plus de 40 degrés, le tout pour 150 euros par semaine. Une fois la nourriture et le logement déduits, il te reste 350 euros mensuels. Nous sommes presque des esclaves, témoigne-t-il. Et les patrons nous disent que si nous n'acceptons pas ce tarif, ils prendront des Africains qui sont prêts, eux, à être payés 4 fois moins. Exploitation des hommes. Et comme souvent, la situation des femmes est pire encore. Dans les campagnes, le viol des travailleuses roumaines est devenu une pratique courante, dans une omerta quasi généralisée, raconte Éric Joseph. Une sorte de droit de cuissage moderne pour des cultivateurs qui baignent dans un climat culturel où la femme est considérée comme une propriété. Ça se passe donc aujourd'hui en Europe.
Et de la Sicile au sud du scrutin de dimanche, vous avez trouvé la transition dans la presse.
Oui, avec cette illustre citation de Tancrède dans le Guépard, mise en exergue par Anne Sinclair à la une du Huffington Post. « Tout changer pour que rien ne bouge », qui fait écho en effet à nos surlendemains électoraux. Alain Raymond, dans La Croix, le dit à sa manière. « J'ai entendu le message des Français, plus rien ne sera comme avant. Ce vote nous oblige. J'ai entendu le message des Français, j'ai entendu le message... » Allô ? Allô, conclut-il ? Ben oui, allô ? Que s'est-il passé depuis les déclarations d'intention dimanche des politiques? Alors d'abord du côté de l'exécutif. On ne change pas une équipe qui perd. Ainsi pourrait se résumer l'état d'esprit de François Hollande au lendemain du second tour, souligne Nicolas Bétou à la une de l'Opinion. Dans Libération, un ministre proche du président corrobore l'analyse. On ne change pas, dit-il, on persévère. Une persévérance qui fait hurler les opposants de la ligne économique et sociale Hollande-Valls. Laurent Mauduit, dans Mediapart, s'insurge contre Hollande qui ne veut rien entendre de la colère du pays, dit-il. Pour preuve, le SMIC, qui a bénéficié d'aucun coup de pouce hier du gouvernement, il aurait pu faire un geste juste pour signifier que la donne avait changé, qu'il l'avait compris, mais rien, pas 20 centimes de plus, pas 10, pas 5. Tout continue comme avant, comme si nous ne courions pas à la catastrophe. Du côté du parti Les Républicains, maintenant, la presse est plus sévère encore sur la réaction post-régionale de Nicolas Sarkozy. Réaction qui consiste surtout à serrer les boulons, comme le dit Libération. Pour l'examen de conscience comme les solutions à proposer aux Français après l'avertissement électoral, il faudra attendre, regrette aujourd'hui en France le Parisien. La droite à l'heure des comptes, raconte le Figaro, qui revient donc sur l'éviction de Nathalie Kosciusko-Morizet, largement médiatisée par elle-même hier. Ce n'est pas en l'écartant qu'il va redorer son blason et s'affranchir de la position revancharde qui lui tient lieu de doctrine, accuse Dominique Jung dans les dernières nouvelles d'Alsace. Moins flamboyant que le PSG, mais tout aussi efficace, s'amuse Jean-Louis Hervois dans La Charente Libre, qui dit comprendre l'irrépressible besoin de se détendre au stade de Nicolas Sarkozy face à ses amis ingrats. Sarkozy, rageur, tient sa ligne. La rage, donc, conclut-il avec ironie. Pour l'Express, cette semaine en tout cas, le vrai perdant de ces élections, c'est bien lui, Nicolas Sarkozy, qui fait la une.
Rien ne bougerait donc, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir.
Si, pour preuve, Cécile Duflot, elle tend la main à François Hollande, vous voyez que ça bouge, interview publiée dans la matinale du Monde, dans laquelle l'ex-ministre propose donc au président de bâtir à ses côtés une coalition de transformation afin de donner du contenu au changement promis en 2012. « Je refuse, dit-elle, de laisser le monopole de l'alternative à l'extrême droite », faisant comprendre qu'elle conditionne sa présence au premier tour de la présidentielle à l'acceptation donc par François Hollande de cette nouvelle coalition à gauche. La presse propose elle aussi quelques pistes de changement. Libération met en avant 5 commandements qui pourraient faire bouger les choses, du type « tes engagements tu respecteras » ou encore « la vie quotidienne tu changeras ». Le Parisien, c'est lui tourné vers nos confrères européens pour savoir ce qui clochait dans notre vie politique. Même visage, même programme, 2017 remake de 2012, se lamente Sophie Péder, journaliste The Economist. Chez nous, en Grande-Bretagne, raconte-t-elle, regardez Ed Miliband après sa défaite aux législatives, eh bien, il a rendu les clés du Labour à seulement 45 ans. Oui, votre classe politique est composée de notables, renchérit un analyste espagnol, club élitiste et fermé.
Ceci dit, depuis dimanche, il y a des choses qui ont déjà changé.
Oui, le cumul des mandats par exemple, eh bien, il régresse. Les Échos font le point ce matin. Xavier Bertrand, nouveau président de région, va se mettre en conformité avec la loi en abandonnant son mandat de maire, mais il devance l'appel en quittant également son siège de député. Idem pour Valérie Pécresse et Christian Estrosi, qui ont décidé de se consacrer à plein temps à leur région. Bon, il y a évidemment ceux qui résistent, Laurent Wauquiez ou encore Carole Delga à gauche, et puis tous les élus Front National. Et Jean-Yves Le Drian qui, lui, cumulera la Bretagne avec le ministère de la Défense. Et puis, ce qui a changé aussi depuis dimanche, c'est la Corse. Aucun commentaire encore, relève l'opinion, de la part de Manuel Valls ou de son ministre de l'Intérieur sur le nouveau visage de la Corse. Et pourtant, jeudi, c'est bien un nationaliste qui sera à la tête d'un mini-gouvernement sur l'île. Gilles Simeoni, fils d'Edmond, icône vivante, nous rappelle le journal, l'homme qui a pris d'assaut les caves d'Aléria en 75, c'était la préhistoire du mouvement nationaliste. Dimanche soir, Gilles Simeoni, le fils de la légende, devenu à son tour légende, raconte un journaliste local, a été porté en héros. À ses côtés, Jean-Guy Talamoni, longtemps la voix des clandestins du FLNC. Jean-Guy, comme on l'appelle là-bas, visage souvent fermé, et bien là, il a follement souri lui aussi pour fêter une victoire historique. Les Échos soulignent en effet que les nationaux élus dimanche sont décidés à engager un bras de fer avec le gouvernement sur plusieurs sujets majeurs. Par exemple, l'amnistie des détenus corses condamnés pour violences politiques ou encore sur le statut d'autonomie à inscrire dans la Constitution avec possibilité d'adapter les lois.
Jean-Guy Talamoni qui va prendre la présidence de l'Assemblée de Corse. Séquence émotion pour terminer, Hélène.
L'émotion d'Angela Merkel hier devant ses amis de la CDU. Elle ne sait pas quoi faire, raconte Thibault Madelin dans Les Échos. Elle s'assoit, se lève, se rassoit, se relève encore, traverse la Seine de 68 mètres de large. Ses yeux sont embués, ses lèvres serrées. Certains prédisaient son crépuscule. Eh bien, elle a eu droit hier à une ovation de 10 minutes. Angela Merkel, qui a certes donné quelques gages aux sceptiques sur le dossier des réfugiés en leur promettant de réduire sensiblement leur flot, mais qui est restée intransigeante sur la politique d'accueil de l'Allemagne. « Nous devons y arriver », a-t-elle répété. Et puis, émotion enfin après l'annonce du départ de Julien Lepers. Hier, annonce faite par Téléstar. Julien Lepers qui a animé « Question pour un champion » depuis 88, nous rappelle Le Parisien. La direction de France 3 souhaiterait rajeunir le programme. Alors, qui pour la remplacer? Hervé Baudry, le dessinateur de presse, qui nous envoie souvent à la revue de presse de France Inter ses dessins, a la réponse. « Pourquoi pas NKM » répond-il. Eh bien, le voilà, le renouvellement.
Eh bien, voilà. Merci. C'était Hélène Jouan pour la revue de presse sur Inter. Dans un petit quart d'heure, nous aurons le billet d'Alex Vizorek. Bonjour, Alex.
Oui, bonjour, Patrick. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Kepel. Alors, c'est jamais évident. Moi, j'aime bien traiter le sujet. Donc, ici, le djihadisme, pour rigoler, c'est pas évident. Non. Pour m'éviter une fatwa, je vais vous parler d'un conte de fées. Voilà. Comme ça, on sera tranquille.
Eh bien, très bien. On attend ça avec impatience. Dans un instant, retour de Gilles Kepel avec les auditeurs de France Inter.